Le débat plein phare.
Et on va revenir ce soir sur cette information qui ne va pas du tout, du tout,
eh
du
non,
tout.
Non, ça va pas vous plaire.
Alors, c'est vrai qu'en 2015, grâce à l'action de 40 millions d'automobilistes, on avait réussi à obtenir le gel du tarif des péages. Alors, soyons clairs, l'État n'en avait pas le droit, mais il l'a fait quand même, il a pris le gauche. Est-ce qu'on peut encore imaginer ce gel sur l'année 2016? C'est en tout cas une des questions qu'on va poser à notre invité ce soir.
Oui, notre invité qui est Maître Éric de Caumont, avocat des délits routiers. Bonsoir, Maître.
Bonsoir.
Est-ce que vous allez bien?
Bon, oui, je suis heureux d'être avec vous.
Vous êtes en forme pour annoncer les augmentations?
Bah écoutez, oui, j'aurais préféré voir des dindes, mais on va parler plutôt des péages. Hein. C'est moins glamour, mais tant pis. Hein.
Non, puis d'autant plus qu'avec ce qu'on paye dans les tarifs des péages autoroutiers, ouais. Je suis pas sûr qu'il nous reste beaucoup pour acheter la dinde.
Non, tout à fait. Peut-être que c'est nous qui sommes les dindons.
Oui, de la farce. Oui.
Allez,
oh là là, ça commence fort. Je vous l'avais promis, on est le soir du réveillon et apparemment,
tout
Éric de Caumont, il est branché. C'est impeccable. On va passer un bon moment. Dites-moi, Éric de Caumont,
oui.
Vous êtes l'avocat des automobilistes, vous êtes l'ami des automobilistes, vous défendez les automobilistes. Oui. Quelquefois, il y en a même qui s'interrogent parce que vous êtes avocat, vous vivez de ceux qui, normalement, doivent faire des infractions et vous faites tout pour les défendre. Est-ce que vous n'êtes pas en train de scier la branche sur laquelle vous êtes
assis? Oui, on m'a déjà un certain nombre de fois demandé. Je dois être un peu schizophrène, probablement. Je ne sais pas. Non, mais
j'ai un très bon psy, si vous voulez.
Ah bah écoutez, vous me donnerez l'adresse à la sortie. En fait, c'est très simple. Et je ne veux pas revenir à Mathusalem, mais au début de ma carrière, il y avait surtout un jeune étudiant en droit qui était passionné par l'automobile et la défense de, bah, des automobilistes, dont lui d'ailleurs, tout simplement, et qui s'est finalement mis en accord avec sa passion et qui en a fait un métier.
Dites
mais
moi,
je
il...
reste un militant de la cause automobiliste avant toute chose.
Avec un petit côté Alain Delon quand même, parce que vous commencez à parler de vous
oui,
à la troisième personne.
C'est bon signe, ça approche de la fin, la retraite bientôt.
Dites
et
moi.
Vous allez voir d'ici à ce que je préside le comité Miss France, il n'y a pas loin. Ça me plairait assez.
Oh merde.
Dites-moi, Éric de Caumont, juste, je voudrais revenir. Ouais. Vous me parlez d'un petit côté schizophrène.
Ouais.
Moi, c'est exactement le même mot que j'ai employé en parlant de Ségolène Royal, parce qu'il y a un truc que je comprends pas.
Ouais.
Elle nous dit d'un côté qu'elle ne veut pas d'augmentation des tarifs des péages, et pourtant, quand on regarde ce qui se passe, c'est elle qui signe les augmentations validées dès l'année dernière des tarifs des péages. Il n'y a pas un petit truc qui colle pas quand même là-dedans?
Il y a un gros truc qui colle pas à
peut-être
mon avis.
Peut-être
lui
donner le numéro
ça.
De mon psy, elle aussi.
Eh ben voilà, on va faire des tarifs de groupe. Je veux bien aller m'allonger sur le divan
avec Ségolène.
Allez, ils ont peut-être des divans biplace.
Je sais pas si votre épouse va être très contente.
Bah écoutez, dans la mesure où c'est pour le psy, c'est pas grave. Donc, en fait, si vous voulez, il y a quand même un problème de base, hein, si je peux me permettre de rappeler quelque chose, et c'est mentionné noir sur blanc dans les textes applicables. Le principe de base, c'est que l'autoroute est
gratuite.
Voilà, c'est le principe de base.
Attendez, Éric de Caumont, j'ai un souci moi aussi quand je vous entends, parce que moi, vous savez, j'ai 36 ans. L'autoroute gratuite, moi, je ne connais pas.
Ouais,
moi non plus.
Moi avoir connu, parce que moi, très, très, très vieux chasseur, et effectivement, au siècle précédent, je ne parle pas du 19e.
Moi, aimais beaucoup faisant.
Voilà, il y avait effectivement encore des principes de gratuité d'autoroute. Alors, le principe de base, et ce qui est quand même amusant, c'est que dans des textes de 2005 ou de 2015, on rappelle au premier alinéa du premier article
que
le principe de base, c'est que l'autoroute est gratuite. Et puis là, on passe à l'alinéa 2 et on dit c'est payant.
D'accord.
Et en fait, il n'y a pas d'autoroute gratuite. Si, il y a les autoroutes de dégagement autour des grandes agglomérations, bien
sûr. Ça reflète assez bien la politique de notre pays, tout ça, quand même.
C'est un petit peu, là aussi, schizophrène. Je m'excuse pour la soirée, ça sera le thème. Et en l'occurrence, bon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, comme l'État n'était pas capable de lever suffisamment de fonds pour pouvoir développer un réseau autoroutier qui était une catastrophe. La France était complètement à la traîne dans la deuxième partie du XXe siècle par rapport aux autres pays européens. Il faut savoir que les premières autoroutes allemandes, c'était dans les années 30. En France, si mes souvenirs sont bons, dans les années 50, on devait avoir 15 km du côté de Vaucresson. C'était à peu près tout. Bon, donc comme il fallait rattraper, qu'est-ce qu'a trouvé l'État ? Il s'est dit, soit je fais payer tout le monde des impôts, ça va pas être très populaire, soit je concède les tronçons autoroutiers à des sociétés que je charge de les construire, mais évidemment elles vont pas le faire pour mes beaux yeux, donc comme elles veulent se payer sur la bête en quelque sorte, elles vont construire les autoroutes et elles vont se rembourser de leurs investissements sur les péages. Bon, et au bout de 30 ans, je crois que c'était 30 ans à l'époque dans les années 50, eh bien entendu les autoroutes, elles rendront les autoroutes à l'État, la concession sera terminée. Et les autoroutes redeviendront gratuites.
Bon, alors,
on y a beaucoup cru, hein.
Utopie,
je suis d'accord.
Utopie.
1950 voilà. Plus 30, donc là,
dans
je
les années 80.
Je révise mes mathématiques.
Je viens de naître.
J'en étais convaincu.
Voilà, donc 1980. Pierre et Caroline arrivent sur la planète Terre, et là, on s'aperçoit qu'il y a toujours les péages.
Qu'il y a toujours les péages et qu'ils sont pas prêts de disparaître. Parce qu'effectivement, les sociétés d'autoroutes ont dit, bah oui, d'accord, fait, c'est amorti ce que j'ai construit, mais j'ai besoin, vous me demandez d'en construire d'autres, et vous me demandez de construire des autoroutes, ce qui est pas faux, ça, qui ne sont pas rentables, mais qui servent à l'aménagement du territoire et à la circulation et pour des raisons économiques. Donc, comme j'ai des autoroutes que je vais construire à mes frais et qui vont être probablement déficitaires...
J'anticipe et je taxe sur les péages.
Eh ben voilà, je vous demande de me laisser les péages des autoroutes rentables, etc., etc. Donc tout ça, c'est une vaste négociation entre un État qui n'a pas de sous et qui n'a pas envie d'investir là-dedans et qui ne veut pas mettre ça sur le compte des impôts. Des sociétés d'autoroutes qui ne sont pas là pour faire de la philanthropie et qui sont là pour gagner de l'argent, et c'est parfaitement normal. Et à partir de là, il faut trouver le juste équilibre.
Bon, alors, du coup, on se retrouve quand même à la fin avec un réseau autoroutier français
de bien meilleure qualité
que la plupart de nos voisins européens.
Tout à fait, non seulement en nombre, j'allais dire en kilométrage, mais également en qualité, parce qu'il suffit de se promener sur des autoroutes de pays limitrophes pour se rendre compte qu'on n'est pas les plus mal lotis, qu'on a de magnifiques autoroutes en France. Mais après ça, se pose la question de savoir à quel niveau on met le péage et comment on autorise les sociétés à augmenter les péages. Alors il y a une règle de base qui est dans la loi, qui est que l'augmentation d'une année sur l'autre ne peut pas normalement dépasser 0,7% du montant de l'inflation. Elle doit être inférieure, légèrement inférieure à l'inflation. Sauf que des années où il n'y a quasiment pas d'inflation, ça voudrait dire que les sociétés, elles ne peuvent pas augmenter. Or,
Ça tombe bien, Eric de Caumont, puisque cette année, il n'y a pas eu d'inflation en 2015.
On a eu très peu d'inflation, donc ça voudrait dire que l'année prochaine...
Ça ne monte pas.
Il devrait pas y avoir d'augmentation.
Et pourtant,
que les sociétés d'autoroute sortent de leur chapeau quelque chose qu'elles ont négocié il y a quelque temps, il y a un an et demi, deux ans.
Avec l'État, on est bien d'accord.
Avec l'État, consistant à dire, ok, on gèle, on bouge pas, mais en contrepartie, on passe des accords et on va pouvoir augmenter chaque année jusqu'à 2023, si mes souvenirs sont bons, dans des proportions plus intéressantes.
2033
même. 33, vous voyez. Mais bon, 33 pour moi, c'est tellement vieux. Vous vous rendez compte qu'à mon âge, 2033, je me projette pas aussi loin. Vous et Caroline, d'accord. Mais moi, non.
Voilà, mais 2033...
Moi, c'est peut-être mon dernier réveillon, sait-on jamais. c'est peut-être ma dernière dinde.
C'est pas le kiff de faire votre dernier réveillon avec Pierre Chasseret et Caro Thiébaud à Sud Radio quand même.
Bah, tant qu'à faire.
C'est pas le kiff.
Non, je crois pas.
Tant avec qu'à une faire, bonne dinde.
Avec une bonne dinde, moi je suis pas contre.
À la limite.
Et je ne vise personne.
Bon, déjà, ça peut pas être moi.
Hein. Ah, oui.
Bon, allez, je vous laisse les mecs, salut.
Dites-moi, il y a juste une chose sur les autoroutes, on est bien d'accord. Alors, ouais. On a un réseau très sécurisé, en bon état, etc.
Ouais.
On l'a concédé, ça coûte beaucoup d'argent aux automobilistes, ça va encore augmenter, dites-moi. Est-ce que c'était justifié d'ajouter des radars sur l'autoroute?
Bah, écoutez,
si je vous dis, Eric de Caumont, mais quand même, on roule vite sur l'autoroute, là où on roule le plus vite, donc c'est là où il y a le plus de morts.
Bah écoutez, justement, la réponse, elle est évidemment non. Elle est non parce que vous avez un pays limitrophe sympathique où ils aiment aussi la dinde le 31 au soir, mais avec de la choucroute de préférence, c'est l'Allemagne. Et en Allemagne, ils n'ont pas de limitation de vitesse sur les autoroutes et ils s'en tirent beaucoup mieux que nous. Donc c'est bien la preuve qu'un radar sur autoroute, ça sert à faire du fric et pas autre chose. Deuxièmement, je me mets à leur place. Il est où le poisson? Il est où le client? Il est où le pigeon? Il est sur l'autoroute.
Elle est où la dinde?
Où est-ce qu'on a le plus de chances, effectivement, d'attraper les dindes et de les taxer? C'est là, effectivement, où, naturellement, un automobiliste qui n'est pas inconscient aura tendance à rouler plus vite que la limitation plutôt que de rouler à 80 en plein centre-ville. Donc, effectivement, on va faire du chiffre. Donc, on met des radars. C'est bien connu que sur autoroute, la vitesse ne tue pas. C'est de très loin la troisième ou quatrième cause de mortalité routière. Ça ne tue pas 20 personnes par an, surtout d'autoroutes confondues par rapport aux 4000 morts qu'on a sur l'ensemble des routes. Bref, ça ne sert à rien de réprimer la vitesse sur autoroute car remplir les caisses de l'État. Et justement, et là j'abonde dans le sens de Pierre, il y a beaucoup de gens, peut-être des gens d'un certain âge, qui considèrent qu'en payant une autoroute, ils payent un service et que notamment le service, c'est de pouvoir rouler vite. Parce que pour eux, pour ceux qui ont connu la France sans autoroute...
Ce qui n'est pas totalement débile, ceci dit.
Oui, l'autoroute, c'était fait pour aller vite. C'était un réseau sécurisé où il n'y a pas de carrefour, où il y a beaucoup moins de dangers et où on peut en toute sécurité rouler rapidement. Les Allemands nous le prouvent tous les jours. Donc, ils disent « je veux bien payer ». Mais pourquoi je devrais en plus être racketté si jamais je veux rouler plus vite que 130?
Eh bien, pour continuer la métaphore filée, je vous propose de régler le thermostat du four et de mettre la dinde juste une minute ou deux, parce que nous, on revient tout de suite après la publicité pour notre débat sur les dindes, sur l'augmentation du tarif autoroutier, bien sûr.
Le débat plein phare.
Allez, revenons à nos moutons. Cette fois-ci, on va changer d'animal. En tout cas, le mouton, on est clairement en train de le tondre, Éric de Caumont, avec cette augmentation des tarifs autoroutiers. Je vais vous poser une question très simple, très claire. L'année dernière, on nous disait que Ségolène Royal n'avait pas le droit dans les contrats de geler les tarifs des péages autoroutiers. Elle l'a fait.
Ouais.
Elle a le droit ou elle n'a pas le droit?
Il y a le droit et il y a les relations contractuelles et amicales. En d'autres termes, rappelez-vous, je crois même que c'était monsieur Manuel Valls qui en avait parlé à une époque, il voulait tout casser, il voulait supprimer les concessions aux sociétés d'autoroutes, il voulait racheter tout ça, puis quand il s'est rendu compte du nombre de dizaines de milliards que ça coûtait, il a freiné, il a mis le frein à main, puis il a décidé que finalement on allait continuer comme ça. Bon. Donc, concrètement, il y a des accords, il y a des contrats qui sont passés, et que l'État ne peut pas dénoncer comme ça, sauf justement à avoir à payer de très lourdes pénalités, ce qui serait pas très intéressant.
C'est un risque.
C'est un risque qu'ils sont peut-être prêts à courir. Vous voyez que Ségolène Royal nous annonce qu'elle n'est pas au courant, qu'il est question d'augmenter l'année prochaine et elle ne voit pas d'où les sociétés d'autoroute tirent ça. A priori, ça a été signé il y a juste un an et demi quand même.
Le problème, c'est que la personne qui a signé ça, c'est elle.
Bah oui. Donc, quand tu dis c'est la soirée schizophrène, la soirée des dindes ce soir, mais
quand tu dis qu'elle est pas au courant quand même de cette augmentation des tarifs autoroutiers, on
c'est
a le droit
un
de se
petit
poser
peu un petit peu embêtant. Je suis d'accord avec vous, c'est un petit peu gênant. Donc une fois qu'elle aura recouvré sa mémoire, elle va se rendre compte qu'effectivement il y a quelque chose qui a été signé. À part ça, sauf à ce que les juristes du ministère de l'écologie trouvent que ça a été mal signé, que c'est dénonçable, que c'est pas juridiquement valable. J'y crois pas trop. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une augmentation à appliquer parce que c'est un accord qui a été passé avec l'État. Éventuellement, ça se négocie encore une fois, éventuellement, si les sociétés d'autoroute veulent se montrer bonnes filles et faire encore un petit effort.
Donc, il est fort probable qu'au 1er février 2016, il y ait, cette fois-ci,
quelque chose.
Une augmentation.
Une augmentation, c'est assez probable. Alors, encore une fois, d'un côté, on comprend les sociétés d'autoroute, ne serait-ce que par rapport au suivi d'une inflation, même si elle est faible. D'un autre côté, moi, je rappelle quelque chose qui me pose toujours un gros problème, c'est que je connais beaucoup de gens qui renoncent à l'autoroute pour des raisons financières. Or, quand on sait qu'on a 4-5 fois moins de chances de se tuer à kilomètre parcouru sur une autoroute que sur une nationale, pourquoi le gouvernement qui nous rebat les oreilles de sa sécurité routière, de la répression à outrance pour essayer de faire baisser les morts, ce à quoi d'ailleurs il échoue lamentablement depuis 2 ans, ne se mobiliserait pas en disant « écoutez, je vais faire ce qu'il faut pour que les autoroutes soient accessibles, y compris aux gens les plus modestes, les gens les moins fortunés, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une sélection par l'argent et qu'ils aillent se tuer sur les nationales. » J'attends ce discours depuis 30 ans.
Est-ce que vous pensez tout simplement que, pour l'instant, donc les autoroutes sont sous la responsabilité du ministère de l'écologie et des transports, est-ce que les autoroutes ne devraient pas être plus sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur, qui a la main sur la sécurité routière?
Puisque le délégué à la sécurité routière, puisqu'effectivement c'est le ministère qui est en charge, il serait quelque part normal qu'il ait la main sur ce problème. Maintenant, ils se parlent, les ministres entre eux, normalement il y a un gouvernement, il y a un délégué interministériel à la sécurité routière. J'ose pas imaginer que Monsieur Cazeneuve et Madame Ségolène Royal n'aient pas l'occasion d'échanger sur le sujet. Et peut-être qu'il y en a un qui pourrait dire à l'autre, écoute, moi pour faire baisser la mortalité routière, je voudrais que l'autoroute soit plus accessible, y compris aux bourses les plus modestes. Et l'autre qui dise effectivement, il va falloir qu'on se mette d'accord pour rendre l'autoroute plus accessible, sans pour autant revenir sur la parole de l'État, car quand l'État signe un contrat, pour moi l'État ne peut pas se déjuger après.
Vous avez peur de peut-être l'image que renverrait l'État comme une personne morale qui ne respecte pas ses engagements et qui pourrait faire fuir des investisseurs potentiels. On pense notamment, à la privatisation des aéroports. Peut-être que ça donnerait moins envie d'investir.
Il est évident que la parole, c'est comme les emprunts d'État, sauf les Russes, mais depuis ils ont régularisé.
Ça va mieux.
Mais ça a pris quand même 80 ans à peu près à régulariser. Et ceux qui avaient les coupons, mes grands-parents pour commencer, hélas, paix à leur âme, ils n'ont jamais pu se présenter au guichet pour toucher. Blague à part, c'est vrai que l'État, c'est un fondamental. La parole de l'État, la signature de l'État, l'engagement de l'État, c'est un fondamental, et un fondamental qui se transmet de gouvernement de gauche à gouvernement de droite et réciproquement, qui transcende les clivages politiques. Et vous avez tout à fait raison, Pierre, quand vous dites qu'effectivement, si l'État ne respecte pas sa parole y compris avec des sociétés privées, des sociétés d'autoroutes ou autres. Comment voulez-vous après que des gens fassent confiance à l'État, souscrivent à des emprunts d'État, viennent investir de l'étranger en France, en se disant il va prendre notre argent, puis quand il va avoir envie de changer les règles du jeu, eh ben il va déchirer le contrat, et puis nous, on sera gros gens comme devant. Donc, effectivement, j'abonde totalement dans votre sens, la parole de l'État, pour moi, c'est sacré, et c'est fondamental pour la confiance que notre société peut donner, y compris vis-à-vis et surtout vis-à-vis de l'étranger ou vis-à-vis des investisseurs. Donc on peut pas trop plaisanter avec ça.
Vous reprenez la route après l'émission ?
Je reprends la route, bien entendu, après l'émission et après la dinde.
Plutôt en deux roues ?
Ah oui, moi c'est essentiellement, majoritairement en tout cas en deux roues. Oui, je suis un vieux motard que jamais.
Donc la météo pour vous c'est important ?
La météo pour moi c'est très important, je sens une excellente transition qui se profile.
La transition est là, vous pouvez même l'annoncer si vous le voulez.
Eh bien on va peut-être nous parler de nos conditions de circulation, des conditions météo peut-être.
Eh bien c'est parti pour la météo.
Je peux faire de la radio.
Le débat plein phare.
Retour dans le débat plein phare. Maintenant qu'on en sait plus sur la météo, on va revenir sur notre débat du jour. L'augmentation des tarifs autoroutiers est-elle inéluctable ? Malheureusement, j'ai envie de dire, à vous écouter, Éric de Caumont,
c'est pas gagné.
J'ai plutôt l'impression qu'on est mal engagé dans cette affaire, ouais. Et que l'État est bien mal engagé. Est-ce que l'État est prisonnier de ses contrats ?
L'État est engagé par ses contrats. C'est un principe fondamental de droit que tout juriste connaît. À partir de ce moment-là, le fait du prince, les pouvoirs régaliens, la capacité, c'est vrai, il y a des termes, enfin, il y a des notions en droit administratif qui permettent parfois à une collectivité, à un représentant de l'État de se désengager de certaines choses. Il y a eu les théories de l'imprévision, enfin, il y a tout un tas de choses, mais globalement et fondamentalement, l'État s'engage. Et si l'État peut se désengager sur un coup de tête ou sur le fait qu'il dit qu'il se rappelle plus qu'il a signé quelque chose, franchement, là, on fait pas sérieux.
Bon, alors d'un côté, moi, si j'ai bien compris, je résume. D'un côté, la société d'autoroute qui tape dans la balle de ping-pong et qui dit à l'État, non, c'est de votre faute, c'est vous qui avez mal signé les contrats et puis tant pis pour vous. Mmh. Vous avez de l'autre côté l'État qui renvoie la balle en disant, non, c'est de votre faute, vous êtes des méchantes sociétés autoroutières et vous taxez les automobilistes. Et dans le milieu, j'ai l'impression qu'il y a l'automobiliste et lui, il doit avaler la balle de ping-pong. Sauf que, avoir l'augmentation des tarifs.
Il doit éviter de prendre l'autoroute parce que ça coûte trop cher et donc il y a des augmentations d'accidents, donc c'est pas cool.
Ça paraît d'une évidence imperturbable. Et j'ai l'impression que dans le milieu, on demande à l'automobiliste d'avaler la balle de ping-pong. Qu'est-ce que peut faire l'usager aujourd'hui ? Est-ce que vous croyez, Éric de Caumont, qu'il serait possible d'engager, allez, lâchons le mot, un boycott des autoroutes sur une journée de départ en vacances, une mobilisation des citoyens, des automobilistes. Est-ce que vous pensez que c'est possible
alors,
en France ?
Franchement, la mobilisation des citoyens sur ce thème, dans des proportions suffisantes pour que ça puisse avoir un impact réel, j'y crois modérément. Vous savez, je suis un motard, je fais partie d'une minorité agissante, notamment la Fédération française des motards en colère, et je peux vous dire qu'on mobilise plus facilement les minorités que les majorités, ça c'est déjà une évidence. Deuxièmement,
vous savez qui vous le dites, moi j'ai 40 millions d'automobilistes derrière, j'ai du mal à
mobiliser. On est bien d'accord, et donc là aussi la question qui se pose vraiment, c'est de savoir, j'allais dire, vers qui il faut s'adresser, parce que dire je boycotte les autoroutes pour peut-être faire pression sur les sociétés pour qu'elles soient pas trop gourmandes et qu'elles essayent de minorer un petit peu de leurs prétentions. Pourquoi pas? Mais encore une fois, elles ont signé et accepté des choses en fonction de ce que leur promettait l'État.
Oui, elles peuvent pas se désengager du jour au lendemain, c'est pas
possible. Elles ont des investissements, elles ont des obligations financières. C'est bien que l'État change d'avis ou change de parole comme ça, comme de chemise. Mais disons que dans ce cas-là, c'est faire preuve d'une grande irresponsabilité économique par rapport à des réalités, à des contrats. Et c'est surtout, moi, si je devais vraiment lancer une action, ça serait de dire à l'État, pas aux sociétés d'autoroutes, qui sont des sociétés commerciales qui sont là pour gagner de l'argent, point final, c'est le système capitaliste, ou alors on rentre dans un système communiste, mais pour l'instant c'est pas encore prévu, et de dire tout simplement à l'État, qu'est-ce que vous allez faire pour permettre au plus grand nombre d'utiliser régulièrement les autoroutes, parce que là, vous allez gagner des centaines et des centaines de vies humaines, vous qui nous bassinez avec ça à longueur d'année, pour mieux justifier la répression et les radars. Faites un effort, faites en sorte que le plus grand nombre puisse accéder aux autoroutes. Alors, trouvez la solution, négociez avec les compagnies d'autoroutes, reprenez éventuellement des concessions si vous pensez que c'est nécessaire, faites des avantages, on a parlé des chèques autoroutes, des possibilités pour les foyers les plus modestes d'utiliser les autoroutes à des tarifs préférentiels. Ça existe déjà. Vous savez que les motards ont, dans le cadre de manifestations sportives, de courses, des tarifs préférentiels pour pouvoir aller par l'autoroute en toute sécurité à la manifestation sportive plutôt que d'aller risquer de se tuer sur les routes nationales ou départementales. Donc c'est faisable, on peut trouver des solutions, mais pour moi l'adversaire, en tout cas celui à la porte duquel il faut taper en disant « alors tu fais quoi
c'est
maintenant ?»
C'est
l'État, c'est celui qui rentre l'argent des radars, et bien c'est celui qui serait bien inspiré, ne serait-ce qu'avec l'argent des radars,
de
trouver des solutions, de le réaffecter, pour pouvoir faire en sorte qu'encore une fois, la sélection en termes de sécurité routière à l'entrée de l'autoroute se fasse pas sur l'argent, qui est une augmentation ou pas une augmentation d'une année sur l'autre, mais sur d'autres critères que sont avant tout la sécurité routière.
Donc très clairement, parce que Pierre a très bien résumé tout à l'heure, là je vais essayer d'en faire de même, l'État ne peut pas se désengager, mais on est bien d'accord que l'État peut améliorer les choses.
Tout à fait, il a des paroles, des contrats à respecter, mais il peut aussi faire évoluer les choses pour l'avenir.
Amélioration, évolution, c'est possible.
Il a toutes les possibilités, il a toutes les cartes en main, c'est lui le maître du jeu. Après ça, il faut savoir ce
qu'il
a vraiment
envie. Donc on est bien d'accord que le fautif, c'est bien l'État.
Ah, pour moi, le responsable, c'est l'État. Et c'est l'État pour ce qui s'est passé jusqu'à
présent,
mais pour
l'État.
Les années à venir.
Alors j'ai une petite dernière question pour vous.
Oui.
Dites-moi, vous auriez pas un petit côté breton dans l'âme ?
Un côté breton, bah écoutez, je me connaissais des ascendances picardes, je me connaissais des ascendances lorraines, mais alors breton, non, c'est quoi qui vous pensez à ça ?
Les autoroutes, c'est pas très payant par là-bas.
C'est vrai que là-bas, effectivement, ils sont pas gâtés en termes d'autoroutes.
Il y aurait un lobby des bretons, peut-être qu'ils auraient réussi à faire quelque chose
oui.
qu'on n'a pas réussi à faire ailleurs
c'est
en France.
C'est vrai, mais je les plains parce que bah, dans un pays où on limite les vitesses autant qu'on peut, bah, en Bretagne, on peut pas rouler à 130.
Non, c'est vrai.
Donc on se déplace plus lentement que dans les autres régions françaises. Donc c'est un handicap breton parce que le VRP breton.
Merde, ça fait deuxième alors.
Eh ben oui, le VRP breton. Je suis désolé, il roule moins vite et il travaille moins dans une journée de travail que le VRP lorrain. Je vous parle même pas du VRP allemand qui lui fait deux fois le chiffre d'affaires des autres parce que bien entendu, il se va d'un client à l'autre à 180 km/h.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2016, Éric de Caumont ?
Qu'est-ce qu'on me souhaite ? Je sais pas, moi une retraite heureuse, non ?
Ah non,
pas
ah
encore,
non, ça non.
Ah
et,
non, vous,
et
vous
premier
ne
Éric de Caumont. Éric
bon.
De Caumont, merci d'avoir été avec nous.
Je reste avec vous, c'est promis.
Évidemment,
encore au moins un an.
Une très bonne année 2016, un peu à l'avance, mais bon, je pense que je vais avoir l'occasion de vous la re-souhaiter en janvier
ouais.
dans sa roule de 9h à midi aux côtés de Laurence Perrault et de Gaspard.
Avec
merci
grand plaisir.
Beaucoup, maître, c'était un plaisir de vous recevoir
merci
ce 31 décembre.
Merci.